Vous êtes sur RTL.
Votre journal maintenant avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Et cette question à la une, cette mystérieuse épidémie d'incendie à Grenoble, qui en veut à la ville ?
La piste criminelle est désormais privilégiée. Un site d'ultra-gauche a même revendiqué ces feux qui ont notamment détruit la mairie. C'est l'info de la nuit au mondial de rugby au Japon. Les Français passeront leur tour samedi contre l'Angleterre. Le match est annulé à cause de la météo. Et puis les Turcs sont passés à l'offensive terrestre contre les Kurdes en Syrie. Inquiétude autour des camps de djihadistes.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec la semaine du goût.
Et le trio magique épinard, navet, betterave.
Deux météos d'ici 7h.
18 degrés, des nuages et ponctuellement des averses. C'est le programme météo de l'après-midi à Vierzon, dans le Cher.
RTL Matin.
Et donc cette interrogation, qui en veut à la ville de Grenoble ?
Les enquêteurs en sont désormais convaincus. La série d'incendies de ces derniers mois ne doit rien au hasard. Fin septembre, c'est l'hôtel de ville qui était partiellement ravagé. On avait retrouvé des traces de carburant à proximité. La piste criminelle est désormais privilégiée et les regards se tournent vers l'ultra-gauche à Grenoble. Pour RTL, Serge Puyot.
Gendarmerie, centre scientifique, entreprise publique ou privée, église, radio locale et donc dernièrement la mairie de Grenoble. Les incendies criminels se multiplient depuis 2 ans dans l'agglomération grenobloise, au point de créer désormais une psychose parmi la population. Nina, une mère de famille.
C'est sûr que c'est inquiétant, c'est même très très inquiétant. Ils n'arrêtent pas de détruire des choses qui appartiennent à la ville, ça veut dire qu'ils appartiennent aux habitants. Je ne sais pas si ces gens sont conscients de l'ampleur des dégâts, mais voilà, ça nous touche. Il y a une peur qui s'installe.
La plupart de ces incendies volontaires déclenchés avec du carburant ont été revendiqués sur un site internet d'ultra-gauche, mais depuis 2 ans les enquêtes piétinent et le ou les auteurs restent inconnus. Pascal, un grenoblois, on est réduit à évoquer des hypothèses.
En général, c'est des pratiques qui sont faites par les extrêmes.
On a parlé de l'ultra-gauche.
Par exemple, ouais, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. Des gens qui veulent déstabiliser ou la ville, ou c'est des gens qui veulent créer un chaos.
Et suite à la multiplication de ces incendies, les autorités redoutent désormais un drame avec une ou plusieurs victimes.
Serge Puyot.
RTL 6h32, 2 semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen, de nouveaux prélèvements au sol seront effectués à partir d'aujourd'hui.
Les inquiétudes ne sont toujours pas dissipées. Les analyses vont être réalisées au nord de la ville où des taux de dioxine supérieurs à la normale ont été relevés. Supérieurs à la normale, mais en dessous des seuils de toxicité, hein, précisent les autorités. Depuis le début, le préfet de Seine-Maritime affirme vouloir jouer la transparence. Pierre-André Durand avec Frédéric Veil.
Il n'y a aucune volonté ou démarche de dissimulation que j'ai. C'est l'inverse. Nous sommes sur une démarche de transparence complète, je dirais quasiment depuis le premier jour d'ailleurs. Je fais en sorte d'être le plus transparent possible. Donc il y a vraiment une volonté très, très marquée de porter à la connaissance des Rouennais et au-delà les résultats d'analyse tels qu'ils nous arrivent.
Le préfet de Seine-Maritime avec Frédéric Veil et demain, pas moins de 3 ministres se rendront sur place. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, son collègue de l'agriculture Didier Guillaume et la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.
La manifestation en faveur de Michaël Harpon est interdite, son initiateur en garde à vue.
Ce militant associatif habitué des provocations avait appelé à une marche pour défendre la mémoire du terroriste qui a fait 4 morts jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. Son domicile d'Aulnay-sous-Bois a été perquisitionné. Un autre homme se fait en revanche très discret. C'est le policier qui a abattu le tueur. Il n'était employé à la préfecture que depuis quelques jours. Il est tout jeune, il refuse pour l'instant les honneurs, il est assez secoué par ce qu'il vient de vivre, Olivier Bois.
Oui, c'est un jeune homme qui est traumatisé par ce qu'il a vécu jeudi dernier. Il l'a écrit à sa hiérarchie. Il est hanté par les images de ce face-à-face avec le terroriste qu'il a décrit dans son audition. 30 secondes de face-à-face quand le terroriste Michaël Harpon marche vers lui, couteau ensanglanté à la main, quand il se met à courir vers lui avant qu'il ne prenne en un quart de seconde la décision de tirer. Il a du mal aujourd'hui à dormir, il a du mal à manger. Et surtout, il ne s'imagine pas reprendre le travail au sein de la préfecture de police de Paris. J'ai peur pour ma vie, il l'écrit dans son rapport. C'est un jeune homme qui a tué un terroriste pour sa propre sécurité. C'est l'usage. S'il le souhaite, il sera très certainement muté loin de la capitale.
Olivier Bois.
Le rugby, maintenant, on le disait en titre, au Japon, le choc qu'on attendait au Mondial n'aura pas lieu.
Angleterre-France, le dernier match de poule du 15 de France est annulé par les organisateurs à cause du typhon qui doit toucher Tokyo en fin de semaine. Le match était programmé samedi à Yokohama. Nouvelle-Zélande-Italie, pareil, fait également les frais de la météo. Écoutez le directeur du Mondial, Alan Gilpin.
Nous avons intensément travaillé sur plusieurs options permettant au match impacté de se dérouler de manière régulière. Malheureusement, les risques sont trop importants pour les équipes et les participants et encore plus graves pour assurer la sécurité des spectateurs.
Angleterre, France, au rugby annulé. Alan Gilpin, le directeur du Mondial.
Allez, on marque une pause dans ce journal et ensuite on part en Allemagne. Une synagogue a été visée hier par un terroriste. Il y a 2 morts. Ce terroriste a filmé et diffusé en direct sur Internet son attaque. A tout de suite sur RTL.
Ouverte ce week-end. RTL Matin, Julien Cellier.
Et donc la suite de votre journal à 6h38 sur RTL. Il voulait s'en prendre à une synagogue à Halle en Allemagne, au sud de Leipzig.
Le tireur a été arrêté, il aura tué 2 personnes qui n'étaient pas les cibles qu'il avait choisies, n'ayant pas réussi à ouvrir les portes de la synagogue. Blandine 1100 en Allemagne.
Stefan B., un Allemand de 27 ans, originaire de Saxe-Anhalt, a agi seul, contrairement aux premières indications fournies hier par la police allemande. Le jeune homme a filmé ses actes et les a diffusés en direct sur Internet. 35 minutes au cours desquelles il affirme que l'Holocauste n'a jamais existé et que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes. Stefan B. a sans doute voulu imiter l'auteur de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui était entré dans 2 mosquées et avait tué 51 personnes en mars dernier, et qui avait lui aussi filmé ses actes. Sauf que Stefan B. n'a jamais réussi à rentrer dans la synagogue de Halle. La porte sécurisée du bâtiment n'a pas cédé. Heureusement, car il y avait 50 de personnes à l'intérieur pour la fête du Yom Kippour. Resté à l'extérieur, le jeune Allemand a fait exploser 2 grenades. Il a tiré des coups de feu sur un restaurant turc non loin de la synagogue, puis s'est enfui en voiture avant d'être arrêté quelques heures plus tard. Angela Merkel a exprimé sa solidarité à l'égard de la communauté juive d'Allemagne et s'est rendue hier dans la soirée dans une synagogue de Berlin.
Blandine 1100. En Syrie, l'offensive turque contre les forces kurdes risque de porter atteinte à la sécurité des Européens. C'est ce qu'affirme le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. 10 000 djihadistes sont actuellement dans des camps de prisonniers encadrés par des Kurdes. La nouvelle guerre remet en cause la surveillance de ces combattants parmi lesquels se trouvent entre 400 et 500 Français. Paris a jusqu'à présent refusé un rapatriement massif de ces djihadistes.
Allez, RTL, 6h39. On termine avec l'histoire du jour, elle est excellente, tendez l'oreille.
Se marier coûte cher, en tout cas c'est un certain budget. Au Texas, aux États-Unis, un homme a cru trouver la bonne solution, braquer une banque la veille du grand jour, mais il ne s'y est pas pris dans les règles de l'art, ou plutôt dans les règles dollars, Philippe Corbet.
Oui, mariage prévu samedi dernier, mais ce Texan a perdu récemment son travail et ne savait pas comment payer la salle de réception, les fleurs et la bague à 3 200 $ promise à sa fiancée. Donc vendredi, il va braquer une banque, sans masque, en disant seulement aux employé qu'il est armé. Il ressort avec 7 000 $ dans des sacs de supermarché, s'échappe au volant de sa Ford Focus en prenant les petites routes dans les bois jusqu'à l'endroit du mariage où il paye 2 600 $ en billets de vin, puis il va acheter la bague. Mais sa photo à visage découvert, prise par les caméras de surveillance et rapidement mise en ligne par la police sur les réseaux, sa fiancée le reconnaît et l'appelle pour lui demander « C'est toi qui viens juste de braquer une banque ?» Elle l'a convaincu d'aller se rendre.
Excellente histoire. Narrée par Philippe Corbet.
Merci beaucoup, Jérôme. À tout à l'heure, 8h avec.